Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a toujours convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h et c'est honteux ce que j'ai dit. Je me réserve parce que je vais exploser.
Putain de merde, sérieux !
Entraîneur, formateur, écoute l'after. Les joggeurs, les plongeurs, écoute l'after. En vélo, en scooter, j'écoute l'after. Attaquant, défenseur, écoute l'after. Même Rocco, le grand acteur, écoute l'after. Au micro, c'est Fazer, c'est Fazer.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Et oui, on salue notre ami Fazer qui a écrit le rap de l'after qui cartonne, évidemment, que vous retrouvez sur YouTube, hein, bien sûr, Fazer.
Il fait pas l'Eurovision, non ? Pas cette année.
Ah non, il aura pu, à mon avis, il avait des chances.
Des chances.
C'est qui d'ailleurs, j'ai oublié, qui représente la France à l'Eurovision ? Je crois que ça a été fait.
Une jeune femme, mais.
Okay. Une Canadienne d'ailleurs. Toujours bizarre quand c'est une Canadienne qui représente la France.
C'est la fille de quelqu'un, non ?
Ouais, je sais pas.
Non, oui, j'ai
ça va être dans un jingle. Fille de quelqu'un de connu.
Merci Flo. Et puis je vous rappelle que l'after est toujours sur Twitch, hein, en direct. Si vous voulez voir notre studio, n'hésitez pas à aller sur Twitch, sur la chaîne RMC Sport. Avant d'accueillir Florent Germain, Daniel, tu avais un message important à faire passer.
Oui, comme on est en pleine période de mercato, je voulais revenir sur les propos que j'avais tenus il y a pas mal de temps. C'était il y a 3 ans, le 23 janvier 2020. Quasiment 3 ans, pile en plus d'ailleurs, parce que c'est on est le 23 aujourd'hui. Oui. C'était en plein mercato d'hiver. Ce matin-là, dans l'équipe, il y avait un article à la rubrique transfert, dans lequel il était évoqué que West Ham pensait à recruter Dimitri Payet. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Quand nous avons évoqué cet article dans l'émission le soir même, bah, j'avais expliqué que je ne croyais pas du tout à ce transfert. Bon, j'étais allé beaucoup trop loin dans mes propos, puisque ces propos avaient été ressentis comme insultants par l'auteur de cet article. L'article, il avait été écrit par notre confrère que tu connais bien, Vincent Garcia. Mm-hmm. Je voulais ce soir lui présenter mes excuses, et j'espère qu'il les acceptera.
Tiens, Marseille, on va en parler avec Florent Germain, justement. Florent, bonsoir.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Flo.
Flo, le mercato marseillais commence, à bouger. Oui et non, enfin, tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, ça fausse fort. On a des idées et on a envie de faire venir du lourd, mais c'est pas si évident que ça. Bref, par quoi tu veux commencer? Parce qu'il y a plein de dossiers.
On a évoqué, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, ce week-end, du dossier Ivan Illich, le Serbe. Alors, ce sera pour l'été prochain, donc on va dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les dirigeants marseillais, on le sait, essayent d'anticiper les choses sur un profil en plus que n'a pas forcément l'OM, hein, c'est un profil gaucher, bon joueur de ballon, donc qu'a connu Igor Tudor à l'Hellas Vérone. Donc là, de ce qu'on nous dit, ça va se faire dans les jours qui viennent. Il devrait même passer une visite médicale pour valider tout ça, mais c'est à partir de la saison prochaine. Il va finir la saison avec son club en Italie, donc c'est quand même un transfert qui est évalué à environ 15 millions d'euros. Il y aura quelques bonus, donc c'est quand même pas rien pour l'OM qui compte vraiment sur ce joueur. Il y avait d'autres clubs en Italie.
Et qui compte ses sous aussi par ailleurs.
Qui compte ses sous, qui est content d'avoir quand même soulagé un peu ses finances avec Gerson, qui petit à petit, j'ai envie de dire, qui était dans le rouge il y a quelques mois et qui, je pense, commence à entamer un vrai cercle vertueux, hein, parce que au final, les gros salaires, au fil des mois, au fil des saisons, les grosses erreurs qui ont été faites aussi par le passé, commencent à être réparées, ou certains gros joueurs ont quitté le club, gros salaire plutôt, plus gros salaire que gros joueur d'ailleurs, ce cercle vertueux commence à la patte Longoria, et Ribalta commence un petit peu à s'accélérer encore plus, quoi. Alors après l'actu du jour, ça concerne le secteur offensif. Mm-hmm. Là où c'est intéressant, c'est que on le sentait venir, pour être très honnête. C'est-à-dire que on voulait, c'est ce qu'on disait à l'OM, remplacer en gros Amin Harit, blessé de longue date, sur une longue période, malheureusement, et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra véritablement revenir et retrouver son niveau. Donc, fallait anticiper les choses. Et ce qu'on nous disait, c'est que la priorité, c'était de trouver un profil similaire. Sauf que le facteur X, un petit peu, de ce que j'estime être un peu un changement de cap du côté des dirigeants de l'OM, c'est qu'il y a un homme qui est vraiment très en forme depuis quelques semaines, c'est Cengiz Under. Et Under, il ne va pas rester éternellement piston droit à la place de Klose, parce que Klose va revenir. Donc, vraiment, finalement, ce qui a fait évoluer un peu la réflexion des dirigeants de l'OM, c'est que Under, plus Malinowski, plus Guendouzi, qui joue souvent en soutien d'Alexis Sanchez, plus éventuellement Payet, parce qu'on va pas non plus oublier Dimitri Payet, ça fait quand même déjà beaucoup de monde dans ce secteur de milieu offensif. Donc la priorité est redevenue, je dis bien redevenue parce que c'était l'idée première, mais c'est compliqué dans le marché des transferts en hiver, on le sait très bien, est redevenue un attaquant. Et ça va être le nom de Mofi, c'est une vraie piste. Donc Terem Mofi, il y a eu des contacts entre les dirigeants marseillais et son entourage, avec Lorient également. Et peut y avoir une monnaie d'échange, ou en tout cas une manière de réduire un petit peu le coût, parce que le président Ferry demande environ 25 millions d'euros. Il y a Nice qui est dessus, qui peut faire une belle offre, qui a déjà fait une offre d'ailleurs a priori autour de 18 millions. Et ce serait Bamba Dieng. Et ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que Bamba Dieng, il veut aller à Lorient. Il est OK, il veut plus rester à Marseille. Voilà, pour le dire très simplement.
Alors qu'il voulait absolument pas partir il y a quelques semaines. Il a changé d'avis, quoi.
Bah, c'est pas qu'il a changé d'avis, c'est qu'il a vu qu'on comptait pas trop sur lui, et c'est une vérité, en fait, hein. L'été dernier, l'OM voulait absolument le vendre, on estimait qu'il faisait pas assez d'efforts, tout d'un coup, c'est redevenu un joueur important parce que c'était le numéro 2 derrière Alexis Sanchez. Lui espérait avoir plus de temps de jeu après le départ de Luis Suarez, il a bien vu que c'était pas le cas. En fait, il y est plus trop, et ça s'est vu, c'est même un peu malheureux, ça s'est vu, vendredi soir contre Rennes, hein. Je suis pas en train de dire que c'est de sa faute ou pas de sa faute. Simplement, c'est un fait que lui, il est plus dedans. Il a perdu un petit peu la flamme. Et donc, je pense que pour tout le monde, ce serait une meilleure idée peut-être qu'il aille.
Alors, juste sur le dossier, Mofi, faut qu'on s'arrête là-dessus avant que tu déroules le reste des infos. Hier, je lisais les explications de Loïc Ferry sur la stratégie lorientaise, où il a dit il n'y aura qu'un gros départ cet hiver. Donc, bah, ça veut dire que Mofi, selon ce que dit Ferry hier, Mofi part pas.
Et là, maintenant. Et donc, quand Loïc Ferry parle, on le croit, alors maintenant.
C'est donc, nouveau, bah, en gros, bah, moi, j'attends de voir. Je prends pour argent comptant ce qu'il dit. Donc, soit, effectivement, bon, il a menti.
Pour argent comptant, carrément.
Bah, c'est une expression, Daniel.
Oui, mais justement, crois-le si tu veux, mais mets pas d'argent dessus, quand même.
Non, je mettrai pas d'argent dessus, t'as raison.
Ouais, quand même.
Enfin, il l'a dit. Donc, Mofi, c'est marrant, Tout le monde le veut. Et Lorient dit, il part pas. Et puis, tu vois, c'est assez étonnant. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec ce joueur.
Il y a quand même, plus globalement, et ça tombe bien que Flo soit là pour qu'on en parle. La tendance à l'OM qui peut être critiquable aussi, hein, en tout cas, c'est, je trouve, assez nouveau dans le foot. Cette tendance à ce que finalement, les joueurs ne comptent plus rien. Ce que je veux dire par là, c'est un joueur dans un club, normalement, c'était certes, si on le prend d'un point de vue économique, une valeur pour le club. Mais si on enlève cet aspect-là, un joueur pouvait s'inscrire dans l'histoire du club, créer un lien affectif avec le public, être marqué par le club s'il y restait des années. Et donc, il devenait marseillais comme il pouvait devenir bordelais ou lillois ou je n'en sais rien. Là, aujourd'hui, les joueurs passent à l'OM. Et ils ne sont pas marseillais. Ils viennent en fait comme des... Ça tourne, c'est une machine à laver, l'OM, ça tourne, les joueurs. Ils viennent 6 mois, 1 an, rarement longtemps. Parfois, il y a des bonnes pioches, même souvent, parce qu'il faut dire que les mecs qui arrivent, souvent, ça marche. Parfois, ça marche moins bien. Et de cette machine à laver, finalement, donc, ne ressort quasiment... Bon, en tout cas, plus beaucoup de liens affectifs entre les joueurs et le public. Et ça, pourtant, Dieu sait qu'historiquement, les Marseillais adoraient ça. Mais ça semble plus vraiment gêner personne parce que les résultats sont bons, parce que l'équipe, globalement, a une âme, alors que les joueurs, eux, n'agissent que comme des employés modèles, mais ils ne créent rien avec le public. Donc, collectivement, il y a une âme. Les vedettes, c'est le président et l'entraîneur, qui eux aussi, hein, surtout l'entraîneur, on sait très bien qu'il pourrait être là, ça marche pas, tu dégages. Et pourtant, bah, l'OM existe. L'OM s'est rarement aussi bien porté que cette année, a rarement donné autant de plaisir à ses supporters que cette année. Mais je ne sais pas avec qui le lien affectif se crée. C'est quand même assez nouveau. Et là, bah, pareil, avec tout ce que tu nous dis, Flo, bah, y a des joueurs qui...
Un lien affectif, Daniel, le stade est plat tout le temps, là. Il y a un lien affectif.
C'est que je te dis. Il y a un lien très fort.
Avec le collectif, tu dis, toi.
Ouais.
Mais quel est le dernier joueur qui a créé un lien affectif avec le Vélodrome?
Payet.
Oui et non.
Il joue plus.
Oui, bah, y a
non,
mais
c'est trop facile de dire Payet. Parce que dans ce cas-là, on va dire Gignac, on va dire Thauvin. Ce sont des joueurs qui ont été aussi critiqués et sifflés.
En fait, c'est même particulier. C'est comme si le lien affectif se crée. Il n'avait pas besoin de se créer à l'OM, mais il existait avec le collectif et le maillot blanc. Ouais. Voilà, ils sont là, ils viennent en nombre. Je crois que vous avez assez dit que pour un match de coupe, c'était énorme le public qu'il y avait vendredi. L'équipe livre des prestations. Tout le monde sait à quel point je suis admiratif depuis le début de la saison. Mais c'est le maillot blanc, l'institution OM. Mais le joueur, tu vas t'attacher à lui. Ça se trouve, il va se barrer à la fin de l'année. On n'en sait rien.
Est-ce que
c'est nouveau? T'es d'accord que c'est nouveau?
C'est nouveau, oui et non, dans le sens où c'est finalement le foot moderne. Et donc, quelque part.
C'est nouveau à Marseille. Oui, on n'est pas habitué à voir ça.
Non, mais c'est un public, finalement, quelque part, public moderne, mais comme tous les publics sont obligés de s'habituer à ça. C'est-à-dire, comme ça arrive de plus en plus, il vaut mieux s'attacher et être attaché à, bon, tes couleurs, c'est le cas, et à un collectif. Plutôt qu'à des joueurs, puisque à tout moment, tu peux, tu vois, par exemple, je te prends un exemple,
donc
même à l'inverse.
C'est une nouvelle tendance qui mérite d'être décryptée.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que en plus.
Pour moi, souvent, c'est pas une nouvelle tendance, Daniel, mais bon.
C'est parce que souvent, ça marchait pas. La machine à laver des joueurs, souvent, ça donne quelque chose qui marche pas bien.
Les plus fidèles supporters te diront, je m'en moque un peu de qui met le maillot de l'OM.
Absolument, mais j'ai pas dit que.
Moi, je vais aller défendre mon équipe, je vais aller défendre un état d'esprit, je vais aller défendre mon maillot, mon écusson, c'est un peu cliché,
oui,
mais c'est un peu le cas chez les supporters.
Ça, mais on sait très
mais c'est pour ça que je t'ai posé la question, quel est le dernier joueur.
Ils te disent, j'adore Francescoli, j'adore Papin, j'adore Waddle, ils se souviennent de plein de trucs.
C'est pour ça que
tu as
pris des exemples qui sont lointains, c'est pour ça que je t'ai demandé, quel est le dernier joueur où il y a eu une véritable relation affective entre lui et le public. Et ben, tu m'as sorti Payet, je suis pas d'accord, Thauvin, je serais pas d'accord, Valbuena, je serais pas d'accord, Gignac, je serais à peine d'accord, donc je te demande qui.
Ah bah non, Gignac, tu dois.
Là, t'es dur un peu.
Mais non, mais parce que vous avez oublié, parce que vous tombez dans le piège d'être resté sur la dernière image. Gignac, il a passé 5 ans à l'OM, ça, il y a eu 2-3 ans très compliqués.
Mandanda.
Donc c'est trop facile. Steve Mandanda, sauf que il n'y a pas non plus une relation totalement passionnée, dépassionnée.
Non, mais,
c'est quelqu'un qui est très respecté.
T'as raté un truc dans ce que j'ai dit. C'est pas que je veux dire, enfin, quand je dis c'est une nouvelle tendance, c'est que la particularité, toi, quand tu dis ça fait longtemps, c'était dans le passé, les mecs auxquels on s'attache, je veux pas te contredire là-dessus. Oui, tu as raison. Mais les périodes dont tu parles, où le public justement avait du mal à s'identifier, c'est des périodes où l'OM avait du mal, où l'OM souffrait, n'offrait pas le visage actuel. Là, c'est le paradoxe que je veux mettre en avant. C'est que logiquement, quand l'équipe marche, c'est qu'il y a des joueurs qui sont là depuis un petit moment, il y a des joueurs qui sont devenus forts et qui sont liés au public, qui te disent à la fin je me sens marseillais, je suis ceci, je suis cela. Là, le paradoxe, c'est que ce sont des gars, tu sais qu'ils sont là peut-être que pour un an, un petit peu, je te dis, comme des employés que tu fais venir sur un chantier de luxe pendant un an, genre mission, un expat que tu prends pendant un an, il te vient, tu le files son gros salaire, il te remet debout une boîte et il se casse. C'est ça, c'est novateur.
Je dis pas que t'as tort, mais.
Parce que ça marche. Et normalement, ça marche pas trop, ce genre de truc-là.
Bon, après, il y a un cas qui est symptomatique et je dis pas que t'as totalement tort, hein. Simplement, je veux le relativiser parce que je trouve que finalement, des joueurs qui ont une relation si affective que ça, ces derniers temps, il y en a pas eu beaucoup. Mais t'as raison d'en parler parce que il y a un cas qui pour moi est symptomatique, c'est Matteo Guendouzi. Moi, je mets pas ma main totalement à couper qui va rester à l'OM.
Lui, il avait le profil pour créer ce lien.
Alors qu'il a ce leadership.
Beaucoup
disent qu'il ressemble à Marseille, qu'il a l'ADN du club, etc. Et pourtant, à un moment donné, peut-être que les dirigeants vont céder s'il y a une offre qui arrive. Je ne sais pas si elle arrivera, mais c'est une possibilité. C'est vrai qu'Aston Villa s'intéresse à lui. Et là, il faudra se poser la bonne question parce qu'il ne faudra pas venir après dire dans un an, deux ans, trois ans, mais à l'OM, on ne sait pas vendre. Mais il y avait pourtant une offre en janvier 2023. Pourquoi ils ne l'ont pas vendu à ce moment-là? C'était 30 millions. Et là, on aura un autre débat en disant Marseille ne sait pas vendre, etc. Donc, on est quand même à la frontière. Qu'est-ce qu'il faudra faire si une offre d'une trentaine de millions d'euros pour un Matteo Guendouzi qui représente si bien.
Nous, on n'a rien à décider, mais on sait d'avance qui sera décidé.
Il sera vendu. Et justement, pour rebondir sur ce que je dis.
Est-ce que ce serait une mauvaise idée?
Non, ce ne sera pas une mauvaise idée. J'explique pourquoi. C'est que dans l'idée que tu dois te faire, enfin, que se font les dirigeants du recrutement pour Marseille, dans l'idée de ce collectif qui fait que, comme tu le dis, Flo, tant que tu as le maillot blanc, tant que t'as la passion, tant que t'as cette intensité, même un Saliba, T'as vu, Saliba, il est pas resté. Mmh. Bah, le moment où il y était, pendant le moment où il y était, tu pouvais te dire à un moment donné, tiens, ce gars-là, ça va être le défenseur qui, machin. Et ça aurait pu. Le joueur sur l'esprit, et lui-même reste marqué.
Et là, on l'a déjà oublié.
Lui-même reste marqué. Et il fait un truc, il kiffe en Angleterre aussi. Mais c'est pour dire que, même si Guendouzi part, maintenant, les gens sont habitués, tout Guendouzi qu'il est, avec cet attachement, effectivement, cet ADN et cette idée que lui colle parfaitement à l'ADN OM. Eh ben, l'idée du recrutement, elle va être sur des gars comme ça. C'est-à-dire des gars déjà capables de s'intégrer à cette mentalité-là, de résister à cette pression-là, voire de la bonifier. Et donc, ça fait partie du type de recrutement que tu dois avoir. C'est-à-dire, penser des collectifs et penser des joueurs qui vont, être marseillais dans l'âme, même s'ils y passent 8 mois.
Reconnaissez quand même que là, et je me mets également dedans, il y a quelque chose qui est assez incohérent. Puisqu'il y a 5 minutes, je vais commencer par, il y a 2 minutes, vous dites, si Guendouzi part parce qu'il y a une très belle offre, c'est pas une mauvaise idée. Il y a 5 minutes, on dit, mais si Malo Gusto part de Lyon.
C'est pas pareil. Malo Gusto, jeune joueur du club, première saison, machin, Guendouzi, il a déjà fait Arsenal, il va partir dans sa carrière. Bah, c'est parce que là, t'as un jeune joueur que tu peux, en gros, espérer laisser mûrir.
Bah, mûrir de quoi? Puisque déjà, on t'en propose un paquet d'oseilles.
Ouais, mais tu vois, je comprends plus, tu vois. Et dans le cas de Guimarães et de...
Non, mais moi, je me mets dans cette incohérence. Donc, il faut essayer de décrypter pourquoi on est incohérent à ce moment-là. Et on en revient à ce qu'on disait de l'OM, c'est que finalement, puisqu'on est dans un championnat où on est globalement tous vendeurs, à part le PSG, tous les clubs sont vendeurs, tu dois réadapter ton modèle et tu dois remplacer cette idée qui a priori nous plaît pas trop, c'est-à-dire qu'on n'est que vendeur, que personne ne reste attaché. Même sur un mec comme Guendouzi qui a priori a tout pour plaire au public marseillais, il faut trouver le modèle qui marche sur le terrain. Donc tu dois proposer quelque chose, c'est-à-dire ce que propose l'OM.
Alors, pour
c'est-à-dire
répondre à
une équipe vaillante, conquérante, généreuse et tout. Et les Lyonnais, si Malo Gusto se barrait, tout gamin du club qu'il est, en plus il est même pas, alors que Guendouzi il est bon, Gusto... il fait même pas une grande saison. Si Lyon à côté avait un modèle avec un patron comme Longoria, un recrutement qui marche, et s'il livrait une saison comme celle que livre l'OM, Malo Gusto, les supporters, il aurait fait sa valise, il aurait accompagné
ça.
L'aéroport.
Et oui, mais c'est la réponse à ta question du début. Pourquoi Malo Gusto, on dit c'est pas bien qu'il parte? Parce qu'il n'y a pas le modèle à côté et le bon recrutement qui va.
Oui, mais c'est ça qui.
Oui, mais il y a. Ouais.
Non, mais c'est ça que je voulais
dire. Il y a une raison pour laquelle on s'insurge contre ça, parce que tu dis, vous n'avez pas les bons joueurs et vous laissez partir même ceux qui pourraient être bons. C'est pas pareil que l'OM, tu dis, t'as les bons joueurs, t'en auras peut-être des meilleurs.
Florent, un truc à rajouter ou t'as tout dit?
Écoute, on a tout dit pour aujourd'hui. Donc, tendance à recruter un attaquant et possiblement Terem Mofi. Donc, négociation en cours.
C'est beau s'ils font Mofi.
Et ça peut inclure.
Mais après la pub, j'aurais bien dit un mot de Longoria parce que j'ai entendu des critiques sur lui récentes et tout. Si Flo veut rester, me donner son avis, mais s'il est pressé, il peut pas. Comme il veut.
À cette heure-ci, il fait froid. Je reste au chaud et avec vous.
Très bien. Alors, on se retrouve dans quelques instants tous ensemble.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h21, Florent Germain est là en direct de Marseille. Florent Gautreau, lui, est là en studio avec nous, avec Daniel Riolo. Juste avant qu'on continue le débat, je voulais vous dire un mot du programme de la semaine dans l'after. Il faut bien rester connecté à l'after demain, mercredi et jeudi. Demain, on va recevoir un historien, chercheur qui a écrit un bouquin passionnant qui fait le lien entre les matchs de l'équipe de France et l'histoire de France. Évidemment, histoire récente, hein, il n'y avait pas de match de l'équipe de France au 15e siècle, au 16e siècle. Enfin, c'est très intéressant de voir que l'équipe de France a souvent épousé les moments d'histoire du 20e siècle et du 21e d'ailleurs. Ce sera demain soir dans l'after.
Puisque tout à l'heure on doit parler de l'éventuelle retraite d'Olivier Giroud. La question se pose, réforme des retraites.
Est-ce qu'il a ses trimestres? Je pense qu'il a ses trimestres.
J'avoue que je ne pensais pas trop à ce lien-là.
Écoute, on est en période de réforme des retraites. On a parlé de la retraite forcée de Noël Le Graët, de celle évoquée, mais finalement pas d'actualité, de Deschamps, et de celle de Giroud. Je ne sais pas si c'est mis dans le livre de notre invité de demain. Mais
mercredi, voilà. Frédéric Thiriez sera là cette fois pour reparler des instances, la Fédé, et surtout faire des propositions d'évolution et de changement pour éviter une nouvelle fois d'avoir ces affaires-là, avec ces listes élues et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les clubs doivent tous voter? Enfin bref, Frédéric Thiriez a bossé le dossier. Et puis, bon, il est quand même avocat à la Cour des comptes, le garçon. Donc, il connaît bien les instances du.
Conseil d'État.
Conseil d'État? Avocat au Conseil d'État.
Pour des comptes,
oui, non, c'est n'importe quoi. J'ai confondu, pardon. Avocat au Conseil d'État, en effet, et ancien président de la Ligue. Et puis, jeudi, spécial Argentine, à peu près un mois après le titre des Argentins. Georges Quirino, passage à Paris, sera avec nous. Il a beaucoup de choses à dire sur l'Argentine. Et il est un peu énervé par la réaction française après le titre argentin. Il nous expliquera pourquoi.
Ça, il a parfaitement raison.
Jeudi, on en débattra. Voilà, voilà le programme de la semaine. Florent, toujours là. Donc oui, continuons ensemble ce débat. Parce que tu voulais interpeller Florent sur une question, Daniel. C'est ce que tu as dit avant la pub.
Oui, oui, Flo. Longoria, parce que, bon, là, on parle. Voilà, il a encore fait des transferts. Malikovski, c'est bien. Ilic va venir probablement. Et c'est plutôt pas mal. Et dès qu'un mouvement se prépare à l'OM, on est toujours obligé de dire c'est pas mal ou c'est bien. Mais rarement, c'est mauvais. Même quand on connaît pas le mec, le gars arrive à être bon. Donc,
il y a eu quelques ratés quand même.
Non, mais c'est vrai que ça déclenche toujours un certain enthousiasme. Ouais, et puis après, on jugera.
De la Fuente, Luis Suarez,
Bakambu.
Excuse-moi, mais dans le brassage.
Oui, il y a eu plus de bien que de mal, plus de bon que de mauvais.
Se livre des clubs comme Monaco, Paris, Lyon depuis des années. Le meilleur yaourt, c'est celui de l'OM pour l'instant.
Mais on reconnaîtra une qualité, c'est que quand tu te trompes et que tu le reconnais rapidement, genre Luis Suarez, je veux dire, en 5 mois, ils ont réglé l'histoire. Ils se sont dit, on va le transférer à Almeria. Donc
comme je parlais de machine à laver tout à l'heure, le linge est lavé plus propre à l'OM en ce moment. Donc, on en parle beaucoup de ces transferts. Et Longoria passe souvent pour celui qui a un œil d'expert. Mais également, il échappe pas à certaines critiques. Critiques que moi-même, j'ai relayées depuis le début de la saison. Des critiques que tu connais, je suis sûr que tu en as entendu parler, Flo. Il suffit de parler à certains agents ou à certaines personnes du milieu. Longoria, ce qui revient régulièrement, c'est en dehors du bilan comptable, ça je l'avais évoqué, où il prend beaucoup, mais il a du mal à vendre. Donc à un moment, il faut quand même faire rentrer des sous dans les caisses. Il y a ensuite le fait de bosser avec tout le temps les mêmes agents, on va dire ses copains, de mettre une pression à certains joueurs pour que ils aillent signer, qu'ils quittent leur agent pour aller signer avec des agents amis de Longoria. Ça, c'est des choses. Tu les as entendues ces choses-là, Flo, ces critiques-là sur Longoria. C'est des critiques qui existent, mais qui se disent pas trop publiquement. C'est beaucoup d'agents parlent de toutes ces choses-là.
Non, sur lesquels il a été questionné aussi en parfois en conférence de presse, parce qu'il a la transparence de faire des souvent des longues conférences de presse où aucune question n'est éludée. Et là-dessus, il avait été un peu pas chahuté, mais questionné au moins, et il avait dit qu'effectivement, lui, il aimait bien travailler avec des agents sur lesquels il a une certaine confiance, parce qu'il sait comment il travaille, il sait où il met les pieds. Donc après effectivement, je veux bien croire qu'on le critique là-dessus, mais dans ce cas-là, faut amener des vrais dossiers, des billes, et puis dire pourquoi vraiment c'est critiquable, parce que je pense que c'est pas le seul. On l'a vu dans d'autres clubs. Avec un certain noyau d'agents.
C'est à ça que je voulais en venir, en fait. C'est que, effectivement, et on peut évoluer au gré d'une saison, se renseigner, voir et tout ça. C'est si, effectivement, ce système-là ne marche pas et que ça se transforme en je fais des cadeaux à mes amis agents en prenant leurs joueurs que je fais venir pour qu'ils touchent leur petite com et que tout le monde est content. Et ça, dans le football, c'est monnaie courante, on le sait. Beaucoup de directeurs sportifs ont fait ça. On travaille avec le catalogue de l'agent qui est ami, les 2-3 avec qui tu bosses tout le temps. Quelque chose qui se voit dans... C'est pas qu'en France, hein. C'est quasi dans tous les championnats. Le directeur sportif un peu flemmard qui appelle l'agent, j'ai besoin d'un arrière droit, tout ça. Bon, ça c'est un grand classique. Quand ça marche pas, parce que c'est pour prendre des bananes, pour faire plaisir aux potes, machin, évidemment que tu le dénonces. Après, tu parlais d'exemple. Oui, on sait qu'il a voulu pousser aussi bien Bouba Camara à aller vers une agence, ou la même chose avec Rongier, qu'il a fait quitter un agent pour que Rongier aille avec d'autres gens et tout. Si tu voulais des exemples, je te les donne. Mais au final, dans un milieu où on connaît les mœurs et on sait comment ça marche, et tu l'as dit, Flo, dans plein de clubs, c'est un peu pareil. Moi, je veux bien, mais les critiques sur Longoria, elles s'éteignent un peu quand même, parce que ok, il bosse avec les gens qu'il connaît, il bosse avec ses amis, il fait sa tambouille. Mais moi, quand je vois arriver Malinovski, quand je vois le visage de l'équipe aujourd'hui, quand je vois le choix qu'il fait avec Tudor, quand je vois l'état d'esprit qu'a l'équipe, je suis désolé, mais s'il veut continuer à bosser avec 3-4 agents et que il arrête, parce que moi, ce que j'avais entendu même, c'est des agents qui me disaient, attends, il fait toujours croquer les mêmes et tout, quoi.
Écoute, oui, mais ça, c'est bon.
Bah, écoute.
Ouais, mais en fait, ça, dans tous les clubs, c'est pareil.
Ouais, mais voilà.
Bah,
donc,
oui, c'est puis le patron, c'est aussi les.
C'est le patron, il le fait et ça marche.
Non,
encore
mais
une fois.
Il le fait. C'est aussi les on dit, on m'a dit que, j'ai entendu que. Bon, c'est un non, petit peu.
C'est
peu
pas
facile.
Que ça.
Non, mais
c'est pas que
non,
comme
mais c'est
ça.
Aussi,
à la limite, je vais te
ça.
Dire. Je vais même te
et
dire.
Si...
Moi, je m'en fous à partir du moment où l'OM, il en a fait une machine de guerre.
Ok, faut aussi souligner quelque chose. C'est que Pablo Longoria, c'est pas un président qui fait ses affaires et ses transferts, surtout. Dans son coin, sans s'exposer. C'est quelqu'un qui va au front. Et c'est
absolument.
Quelqu'un qui vient d'être élu au absolument. Conseil d'administration de la Ligue, ouais. Qui a des ambitions d'un petit peu secouer tout le monde et, si possible, moderniser un petit peu le football français. Ça va pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est clair. Hein, parce que, rappelez-vous, quand il y a deux ans, trois ans... Exactement. Quand il y a quelques années, il a fait des interviews en critiquant
les
foot. Ouais, les entraîneurs français, le foot français. Je sais que des fois, il y a des choses dans les règlements qu'il apprécie moyennement, mais il va au front, hein, il se cache pas. Hein.
Mais c'est pour ça. Mais attends, donc, rappelle-toi, Flo, que j'appelais de mes voeux sa présence au conseil d'administration. Ouais. Je trouvais incroyable que l'OM n'y soit pas depuis des années et ne soit pas représenté.
Ils y étaient via Jacques Henri Hérault.
On connaît l'histoire. Donc là, maintenant, moi, je suis content qu'il y aille et quelque part, ce que je disais, c'était pour finalement le défendre.
Ouais, mais c'est un peu, il y a deux choses différentes. Que tu ailles au Mastic, et je reconnais là-dessus qu'il a à la fois du courage, des idées et qu'il n'hésite pas d'ailleurs à les défendre, c'est plutôt bien, y compris au niveau de la gouvernance du foot, au contraire. Après, là, on parlait quand même d'un sujet qui est différent, qui est vraiment propre à l'OM, au transfert, au business, éventuellement à du business. Tu vois, on a connu à l'OM à une époque sur les transferts, à une époque, et dans d'autres clubs hein, d'ailleurs. Mmh. Donc, il faut faire très attention quand même à ces choses-là. Et pour Longoria, pour me souvenir parfaitement du début de saison et de ce qui s'est passé cet été, je peux te dire que les critiques, tu en as parlé d'ailleurs, elles étaient... très très
absolument.
Présente
absolument.
Et donc
je
te dis ouais et ouais absolument et justement quelque part comme pour Deschamps avec sa tactique un peu particulière c'est les résultats qui vont faire la diff parce que si les résultats ça
c'est pas que le résultat c'est la réussite des mecs qui sont venus et c'est l'état
oui,
et c'est ce que
oui,
dégage cette OM
oui mais bien sûr t'as raison mais ce que je veux dire c'est que tout le monde attendait au tournant a été prêt à dire ouais, d'abord ça va pas, d'abord qui c'est Tudor, et puis en plus il paraît que l'autre il fait du business plutôt que de faire une équipe. Enfin, il y avait ça.
Absolument.
Donc je me rappelle de ces quatre premiers matchs, on avait dit le calendrier favorable qui permettrait à Tudor de passer l'été. Tout le monde était un peu serré les fesses au club. Donc moi je sais pas ce qu'en pense Flo, mais en fait ça se passe bien, tant mieux. Mais les critiques, elles étaient présentes, elles sont présentes en sous-main. Il y a plein de gens à Marseille, effectivement, qui pensent toujours ça. Donc
après. Le dernier
dernier mot pour Flo, les gars.
Dernier élément, Flo, et je veux votre avis là-dessus. C'est s'il s'applique à lui-même ce qu'il applique à l'OM. Ça veut dire quoi, ce que je dis? S'il s'applique à lui-même ce qu'il fait à l'OM avec les joueurs, c'est si à la fin de la saison, il a l'offre de la Juve et où ça va pas du tout, on veut reconstruire et l'Italie, c'est son pays de football. Et où il prend ses bagages et il accepte l'offre et il lâche l'OM.
Parce que dans la loi du marché
qui est la sienne, ça peut arriver.
Ouais, après, ça dépendra à quel poste, parce que
les postes à la Juve, il y a tout à refaire. Hein.
Oui, mais lui avait dit, rappelez-vous, dans une émission qu'on avait délocalisée à Marseille, il avait dit, moi, je ne me vois pas président d'un autre club. Pourquoi? Parce que il faut quand même préciser qu'à la base, c'est pas son dada d'être président de club et
le poste
de gérer.
De directeur sportif à la Juve,
bon,
il est libre.
Peut-être, on verra. Mais en tout cas, il faut aussi avoir en tête quelque chose pour cerner un peu la personnalité de Pablo Longoria, c'est que lui, il se soucie pas trop de son image. Des critiques, franchement il est vraiment au-dessus de ça et que si en gros un jour on l'enquiquine pour employer un mot et ben moins vulgaire, je vous garantis qu'il est capable d'un claquement de doigts de dire bon bah, ok ciao. Donc lui il fait son taf et c'est pas quelqu'un qui va s'accrocher au poste parce que c'est bien d'être président de l'OM ou quoi que ce soit.
Voilà,
lui,
pour l'instant personne le fait chier, McCourt le laisse faire tranquille.
Voilà, mais je pense que c'est la bonne tactique pour le laisser bosser.
Je suis d'accord.
Et lui il est droit dans ses bottes, il sait qu'il est jugé sur, tu l'as dit, les résultats, la réussite des transferts et comme je le disais, c'est important de montrer que il fait front et que il va aussi se mouiller.
Ah, mais moi
sur
je suis pour que ce
thèmes.
Gars-là reste dans le football français, hein, c'est
voilà,
bien pour notre
dans le football
français.
Hein. Exactement.
Merci Flo.
Ciao les amis.
Et on retrouve toutes les infos de Florent sur rmcsport.fr évidemment. Dans un instant, Jean-Luc et Morgan veulent réagir à notre débat. L'OM au programme de l'After, toujours dans quelques secondes.
RMC. 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h34, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là, l'OM toujours au programme. On a parlé stratégie, on a parlé mercato. Et on a Jean-Luc au 32-16 là qui nous écoutait. Salut Jean-Luc.
Salut l'after, salut Daniel. Salut Gilbert et salut Florent.
Salut. Alors toi, tu voulais réagir sur le thème là, tout à l'heure on parlait des joueurs et de l'attachement club.
Ah oui, oui.
C'est quelque chose qui t'a interpellé.
Oui, oui. Moi, je suis un vieux supporter de l'OM, d'accord. Mm-hmm. Moi, je me régale quand j'entends Daniel parler de son amour pour le Paris Saint-Germain, mais de l'ancien Paris Saint-Germain. Parce que moi, je suis dans son cadre à lui. C'est-à-dire que moi, j'aime le club. Moi, j'aime l'OM. Je m'en fous des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, pour nous, ils sont toujours passés. Et vous pouvez regarder dans l'histoire de l'OM, et c'est pour ça que je voulais revenir à ça, dans l'histoire de l'OM, tous les joueurs qui sont venus à l'OM, les gens se sont attachés, mais une fois qu'ils sont partis de l'OM, les gens, ils s'en foutent. Papin, il est parti. Il est allé au Milan AC, on s'en foutait. Nous, ce qui compte, c'est l'institution OM. Si à l'OM, il y a 11 peintres qui jouent, les gens, ils sont derrière les 11 peintres. Et si l'OM est en deuxième division, l'OM est avec les supporters sont derrière. Les supporters, ils aiment le club. Les supporters ne supporteraient jamais qu'un Messi, qu'un Neymar leur crache à la figure en n'allant pas les applaudir à la fin du match. Ils ne supporteraient jamais ça parce que, avant tout, l'OM, c'est l'institution. Les supporters, les vrais supporters de l'OM, ils aiment l'institution. Et à l'OM, que ce soit les vieux ou les jeunes, à la différence du public footix dont parle souvent Daniel, et il a raison pour le Paris Saint-Germain, parce que moi, autant je respecte les vieux supporters de Paris Saint-Germain, autant les footix d'aujourd'hui qui vont supporter Neymar ou Mbappé ou Messi, c'est insupportable. On supporte le Paris Saint-Germain, on supporte l'Olympique de Marseille, mais on ne supporte pas des joueurs qui sont des mercenaires, des gens qui vont...
Non, mais t'as le droit de les aimer, il y a quand même des belles histoires qui se créent avec les joueurs.
Bah, oui, mais combien d'histoires on a? Si on prend dans l'histoire de l'OM, l'histoire de l'OM, c'est quoi? C'est, à l'époque de Tapie, il changeait tous les ans 4-5 joueurs. Tout le temps. Il y a eu de l'amour pour Papin. Il y a eu de l'amour. Et les seuls joueurs qui sont restés à l'OM, c'est quoi? C'est Eric Dimeco, qui est resté pendant toute la
saison. Non, mais t'as de l'affection pour Boli, pour Waddle, pour Papin, pour Francescoli. T'en as plein. Mais même dans les époques d'après, même dans les époques de moins bien, t'as des mecs que t'aimais bien. Je suis sûr que même un mec comme Cascarino, les Marseillais s'en souviennent avec
un. Moi, je me rappelle.
Mamad Niang, c'est pas un mec qui est resté. Il y en a plein.
Eliott Grandin, par exemple.
Mais on n'a jamais fait passer, nous, l'amour d'un joueur devant l'amour de notre club. Tu vois ce que je veux dire? On les aime, oui, ils s'en vont. Au revoir, messieurs, on passe à d'autres. Parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est l'institution. C'est pas les joueurs. Ils s'en vont, au revoir. Ils reviennent, on les applaudit, on dit bravo. Tu vois, Mandanda, il est revenu avec Rennes. Moi, j'étais au stade. Avant le match, j'ai applaudi Mandanda. Mais pendant le match, j'aurais vécu d'une chose, c'est que Mandanda, il s'en prenne le 3. Je m'en foutais de Mandanda. Une fois qu'il est dehors, bon, on lui dit bonjour, on est content, on est sympa. Mais je veux dire, c'est l'OM qui compte. Le reste, ça compte pas.
Ouais, moi, je te comprends, Jean-Luc.
Non, mais moi, attends, moi, je.
Globalement, je te comprends.
Je comprends ça. Regarde à l'inverse.
Surtout quand tu vois le cynisme des joueurs.
Non, mais regarde à l'inverse au PSG. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans ce club de milliardaires, il y a des clubs qui sont là depuis des années, et qui auraient pu créer un lien. Un mec comme Verratti, les supporters du PSG l'adorent. Il a créé un lien. Bon, il donne une interview par an et quand il la donne, il n'y a rien dedans. Mais les gens se sont pourtant attachés à lui. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Marquinhos, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a des mecs qui sont là depuis des années. Et puis, tu en as d'autres qui ne saluent même pas le public. Un mec comme Mbappé, ça fait 6 ans maintenant qu'il est là. Neymar, c'est la même chose. Et pourtant, ça n'empêche pas les supporters d'être fâchés avec l'attitude des joueurs, même s'ils sont là depuis des années, parce qu'ils ne donnent pas assez. Parce que tu es là depuis des années, mais si tu ne donnes rien, s'il n'y a pas un échange affectif, d'amour, bah ça sert à rien que tu sois là depuis 10 ans si tu donnes rien au final.
Mais à l'OM, c'est rare les joueurs qui restent longtemps. Tu peux regarder dans l'histoire, les gens ils s'attachent aux joueurs, mais ils ne restent jamais que longtemps. Regarde, dans les dernières années, Valbuena il est resté, Loric Sana il est resté, Mamadou Niang un petit peu, Mandanda beaucoup, mais Taïwo, mais à part ça, les joueurs depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont toujours pas.
Ouais, mais là on est à une étape supplémentaire, c'est que les mecs restent un an, mais visiblement ça pose pas de problème tant que ces joueurs-là font le taf et se comportent comme les employés modèles à chaque match, bon tant mieux. Hein.
Ah, moi j'avoue que je suis assez admiratif parce qu'en début de saison, moi perso par exemple, Tudor, je le supportais pas quoi, c'est quoi ce mec? qu'est-ce qu'il nous a balancé tout ce que vous avez dit, vous avez dit la vérité. Hein. D'ailleurs, Longoria, moi j'avais l'impression en début de saison, j'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore, changer la moitié des joueurs, mettre un autre état d'esprit dans les
voilà,
années. Il avait Sampaoli qui faisait jouer un handball. Il passe à un joueur qui va dire un entraîneur fait un jeu de transition. J'ai dit il fait n'importe quoi. Or, eh ben force est de constater que ce mec, il est bien plus en avance sur le football que moi, que nous tous qui regardons, parce que ce gars-là, il a compris que le football de l'année dernière, ça durerait pas. Il a compris des choses. Il a mis un gars qui s'appelle Tudor, que moi, perso, j'ai déboîté de A à Z en disant que je comprenais pas ce mec. Aujourd'hui, il nous fait jouer comme jamais. Franchement, aujourd'hui, ben, force est de constater qu'en fait, l'institution, l'état d'esprit, la stratégie d'une équipe, ben, c'est beaucoup plus fort que les individualités qu'on peut mettre dans une équipe. Et ça, franchement, c'est une vraie leçon que Longoria m'a donnée. Moi, je suis rien dans le football, supporter de l'OM, mais nous a donné à tous. Et franchement, aujourd'hui, quand j'entends parler de Lyon, mais Dieu merci, on a eu Longoria et on n'a pas eu Chéroux comme directeur sportif. Parce que Longoria, il a su créer quelque chose. Et comme tu dis, il faut qu'il reste dans le football français. Mais bien sûr, ben là, tu vois, là, regarde ce qui se passe actuellement. Là, alors, l'intelligence de ce mec, parce que moi, je suis contre, mais... Au départ, il part sur un esprit. Il dit, moi, je vais prendre un milieu offensif, comme ça, comme ça. Il s'aperçoit qu'il en a plusieurs, mais il se dit, ben, je vais changer. C'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution. Et là, il se balance sur Mossi. Mais si Mossi, s'il y a l'OM, mais c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'on aura tout rempli. Franchement, chapeau, parce qu'il nous a fermé le bec à nous tous, les vieux supporters de l'OM, aux jeunes supporters. Et franchement, ben, Longoria, ben, il nous fait taire. Et bravo, de faire ce qu'il fait, parce qu'avec les moyens qu'il a, qui malgré tout sont quand même limités, ben le mec, il est imaginatif. Alors peut-être qu'il rate des choses, clairement il en rate, mais au moins, il a la chance, okay. Il a le mérite d'essayer. Voilà ce que je voulais dire.
Jean-Luc, le message est passé, voilà. Et c'était clair, précis et engagé, comme on aime dans l'after. Merci Jean-Luc.
Et allez l'OM, comme d'habitude.
Salut Jean-Luc. Dernier avis, je suis de Morgane, supporter marseillais lui aussi. Salut Morgane.
Bonsoir tout le monde.
D'accord avec Jean-Luc?
Oui, d'accord, avec une petite nuance. Il y a des affections qui se créent. Voilà, moi je trouve qu'un mec comme Guendouzi aujourd'hui, il est énormément aimé au stade. C'est un mec qui correspond au club. Et moi, c'est quelqu'un que je pense qu'il y a plusieurs valeurs marchandes aujourd'hui dans l'effectif. Il peut vendre s'il veut. Il n'est pas obligé de faire une grosse vente. Et je pense que voilà, pour justement continuer dans son idée qu'il faut souvent changer, je pense quand même qu'il y a des piliers à garder pour garder l'état d'esprit qui veut influer à son équipe. Un mec comme Guendouzi, tu le fais changer de tactique, etc. Il répondra toujours présent sur le terrain. Donc honnêtement, moi, je me donnerais plus comme objectif de prolonger quelqu'un comme ça, de le garder plutôt que d'aller chercher des mecs à, comme il dit, peut-être que ça sera bien, mais à 20 millions au final.
Sauf qu'il y a une comptabilité à sortir et la compta, elle est pas nette et rentrer un joueur 30 millions, ce serait vraiment bien pour l'OM.
Oui, mais voilà, c'est ce que je dis, Daniel. Au lieu peut-être d'en vendre un 30, ben, tu peux vendre peut-être Balerdi 15, Gay 10, et garder un mec comme Guendouzi.
Tu vas pas les vendre comme ça, eux. Hein.
Ou un peu moins, mais peut-être il y a Under aussi qui, mais le public marseillais s'attache quand même à certains joueurs comme Payet, alors sans en faire des légendes non plus, mais aujourd'hui, un mec comme Guendouzi, un mec comme Bemba commence aussi à devenir un peu le chouchou du stade parce qu'il fait tout, ce mec. Mmh. Et je pense qu'aussi cette sensation de brassage qu'on a, elle est à nuancer parce que il y a eu ce changement de coach et ce changement complètement de stratégie en début d'été. Et que peut-être que si tu avais gardé Sampaoli, effectivement, il aurait régénéré l'effectif, mais pas à ce point-là. Là, le mec, il a pris un coach qui est complètement opposé aux joueurs qu'on avait. Il a fallu qu'il recrute des joueurs qui sont adaptés à ce système-là. Et en un mercato, c'est pas possible, donc il continue. Et je pense que si l'année prochaine tu gardes Tudor, va y avoir peut-être moins de brassage dans l'effectif qu'il y a pu avoir sur les deux dernières mercato actuellement.
Morgan, en tout cas, il va falloir se bouger tout de même parce qu'on est le 23. Hein, donc là, la dernière semaine, elle promet dans pas mal de clubs d'être assez agitée.
C'est pas passé grand-chose dans ce mercato.
Ah oui, c'est vrai. Bon, y a beaucoup de paroles, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, mais pour l'instant, pas énormément d'actes non plus. Merci Morgan.
Merci tout le monde, bonne soirée.
Salut. Giroud au programme dans quelques instants, après avoir parlé longuement de l'OM et puis le reste de l'actu mercato du jour. On se retrouve tout de suite dans l'after. Encore un quart d'heure, tous ensemble. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Florent Cotreau, Daniel Riolo, ils sont là 23h45. Alors, comme Florent est là, Daniel, il fallait bien qu'on dise un mot de Giroud. Il s'est exprimé ce week-end. On s'est dit, on attend que Florent arrive. Hier soir, on s'est gardé le sujet au frigo. Hein, parce que hier, il y avait Walid Acharchour et Stéphanie. C'était pas vraiment, tu vois.
C'est pas la team Giroud.
Pas la team Giroud. Enfin, je suis beau, non, c'est pas forcément la team autre chose non plus. Mais on attendait que tu arrives quand même, tu vois, pour ce sujet-là. Alors, il y a plusieurs. Plusieurs éléments dans ce qu'il a dit. Premier élément, son avenir en équipe de France. Alors, il dit, on va l'écouter, qu'en gros, il n'a pas encore pris sa décision. C'est parti.
Pour l'instant, je continue. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose de voir Hugo arrêter après toutes ces années passées ensemble et la relation particulière que j'ai avec lui. Voilà, c'est une page qui se tourne. Mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir.
Voilà, c'est sur Canal, hein, dimanche. Bon, on a quand même l'impression que ça ressemble à la fin, là. Peut-être si c'est pas lui qui décide, c'est Deschamps qui décidera pour lui.
Bah, c'est ça, en fait, parce que il est bien gentil de dire ça m'a fait réfléchir. Mais il n'est pas tout seul à réfléchir, en fait.
Bah, oui,
c'est surtout le sélectionneur qui doit réfléchir.
Le sélectionneur qui, avant la Coupe du Monde, ne voulait pas de lui et l'a rappelé par opportunisme.
De la tournure qu'il va donner à la future compo des Bleus où il faut déjà penser à l'Euro qui arrive dans 18 mois. Et quelque part, Giroud, dans cette interview, bon, allez, on va dire somme toute intéressante, parce que quand un international comme ça parle, il faut toujours écouter ce qu'il dit. Il ouvre le débat de la suite. La suite qui arrive fin mars, c'est ça, pour le prochain match des Bleus.
Tout à fait, fin mars,
24 mars. Et moi, vous le savez, ce n'est pas un mystère. J'aurais souhaité, après cette Coupe du Monde réussie, puisque quand tu es en finale, tu peux dire que c'est réussi. J'aurais aimé qu'on donne un nouvel élan à l'équipe de France après une aventure et une page de 10 ans de Deschamps, passer à autre chose. C'est marrant parce que je reçois quand même beaucoup de messages qui disent ouais, mais avec tout ce qu'il a fait, c'est comme s'il y avait une fatalité à ce que dans le football, tu ne changes que quand tu prends le mur. C'est quand tu prends le mur, allez hop, là tu le dégages. Il faut que ça se termine mal. Ça ne peut pas bien se terminer une histoire dans le football. Donc tu ne peux pas dire après la Coupe du Monde, on tourne la page. Non, puisque t'as réussi, tu continues. Quand tu prendras le mur, on arrêtera. Je trouve qu'en termes de management, ça mérite une réflexion profonde.
Je cherche pour quel coach ça s'est bien terminé.
J'encourage vraiment ceux qui disent ça et qui m'ont beaucoup dit ça sur les réseaux à réfléchir en termes de management à ce qu'ils disent là, comparé justement à Jacquet qui a voulu arrêter tout ça et à d'autres exemples. Bref, à partir du moment où Giroud ouvre ce débat, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Et je le disais, moi, j'aurais aimé que Deschamps, après 10 ans de bons et loyaux services, tourne la page. Et de la même façon, à 18 mois d'un euro, bah, qu'on envisage la suite sans Lloris, il a arrêté de lui-même. Sans Mandanda, il a arrêté de lui-même. Sans Benzema, il a arrêté de lui-même. Mais est-ce qu'il faut pas tourner la page plus globalement pour Griezmann, pour Varane, pour Giroud, puisque lui-même pose la question? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un problème d'âge? Est-ce que tu vas continuer l'aventure avec les mêmes jusqu'au bout? Parce que s'ils continuent en championnat et qu'ils sont bons ou qu'ils deviennent même moins bons sur les 6 derniers mois, mais une fois qu'ils sont là, ils sont là, hein, donc tu vas avec eux. C'est un peu comme si le foot, il y avait une fatalité, comme je l'ai dit pour l'entraîneur, c'est tu ne changes pas tant que tu n'as pas pris le mur. Eh bien, quand tu as eu des années de réussite, on l'a eu avec l'Allemagne post-2014, avec l'Espagne. Pareil, c'est tu vas au bout du bout jusqu'à ce que ça rate. Et c'est à ce moment-là que tu tournes la page. Moi, je trouve que c'est dommage. Je pense que tu peux anticiper les choses. Je ne sais pas si Deschamps le fera, mais moi, je pense qu'il faudrait régénérer les
Griezmann, Varane. Ils ont quand même 6 ans de moins que Giroud. Hein. Tu vois?
Je te rappelle quand même que Griezmann était un joueur, il y a un an, jamais on aurait cru qu'il aurait fait une telle Coupe du Monde. Coupe du Monde où il a été très bon, sauf sur la finale où il a été très mauvais. Tout comme Giroud d'ailleurs, on ne pensait pas qu'il serait aussi bon. Il a été très bon, sauf sur la finale. Est-ce que cette finale, finalement, il ne faut pas la prendre comme un symbole quand tu vois la prestation des deux hommes? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment passer à autre chose pour tous ces joueurs-là?
Ah tiens, justement.
Je n'ai pas de conviction profonde, mais je pose la question quand même.
Écoutez, il y a un truc quand même là qui, à mon avis, va pas du tout plaire à Deschamps. C'est ce que Giroud a dit sur la finale et sa sortie à la 40e minute.
Pour être honnête avec vous, j'étais déçu et surpris de sortir si tôt dans le match. Donc, j'ai pas eu le coach en direct, mais Je pense comprendre que c'était un choix tactique. J'aurais peut-être l'opportunité d'en parler avec lui. Sortir voilà, 40e d'une finale de Coupe du Monde, c'est pas facile. Pendant 5 minutes sur le banc, après être sorti, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient. Mais après, j'étais à 200% concerné derrière l'équipe.
Ça déchire, il n'aime pas quand on dit ce genre de truc. Hein.
Non, mais c'est une réaction franche. Parce que,
bah oui.
Qu'est-ce que tu veux dire, 40e minute de finale de Coupe du Monde, même s'il n'a pas le recul pour voir qu'il avait été suffisamment mauvais, entre guillemets, pour être sorti.
Ah, Giroud, il avait été franc avec Mbappé un jour en disant ouais, je ne reçois pas beaucoup de ballons, vous vous souvenez le bordel que ça a mis.
Oui, non, mais t'as raison de dire que ça peut poser problème, mais je pense que là, c'est dit sans. Tu vois, entre ça et les messages subliminaux de Benzema, tu sais, via des réseaux sociaux, tu vois, moi, je préférais qu'il dise des trucs clairement, même Benzema, en disant, tu vois, j'ai pas été content d'être exclu, enfin, renvoyé chez moi directement, mais je soutiens les Bleus, enfin, tu vois, un truc plus simple, quoi, par moment.
Oui, c'est vrai qu'à un moment, être sincère et faire les choses, comme, en trois phrases, c'est quand même facile.
Par exemple, si Benzema avait dit, écoutez, c'est totalement injuste, parce que je pense que j'aurais pu jouer à partir des huitièmes de finale, donc pour moi, c'est terrible, parce que c'est la vie d'un footballeur, la Coupe du Monde, etc., comme il vient de le dire Giroud. Bon, bref, ça c'est de la com. Moi, je vais vous surprendre, mais moi, je pense qu'il faut qu'il arrête là, Olivier, là, parce que moi, j'ai soutenu. Oh. Ah ouais, moi, je pense qu'il faut qu'il arrête les Bleus.
Ah, Florent.
Non, mais ce que je pense. Non, mais tu vois, c'est, quand on est un supporter,
il y a
souvent.
Le droit d'aimer et d'être lucide. Hein,
ouais, c'est ça. Souvent, t'es aveugle, t'es pas lucide. Tu vois, tu parlais de l'OM et des supporters et enfin de le gars avec Tudor tout à l'heure. Tu vois, c'est aussi une leçon pour les supporters que d'être capable de se dire. Vous étiez prêt à le foutre dans le vieux port, tout habillé avant même le premier match. Reconnaissez que parfois, t'as des mecs dont c'est le métier, qui ont des compétences. Ten Hag à Manchester, tu vois, là, bon, etc. Donc, il faut être capable de. Je suis supporter, enfin, je suis fan de Giroud, mais je suis aussi capable de voir que quelqu'un qui a 36 ans, qui a fait. Moi, j'ai milité pour cette compète-là précisément pour plein de raisons. Ponctuelles, d'état de forme, pour le fait qu'il avait 36 ans et pas 40 ans, parce que ce sera l'âge qu'il aurait. Dans la prochaine grande compète à l'Euro. Donc, pour faire
il
simple. Aura
pas 40 ans à l'Euro dans 18 mois.
Non, de 38 ans, 40 ans pour la Coupe du Monde, pardon.
C'est déjà énorme.
Ouais, 38 pour l'Euro. Et c'est un attaquant. Pour revenir à ça aussi, je pense quand même que, voilà, c'est compliqué d'aller jouer des grandes compètes à cet âge-là. Et je pense qu'il a fait son âge, effectivement, parfois dans cette Coupe du Monde, notamment sur la finale. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il tourne la page. Et comme le dit Daniel, au contraire, qu'il tourne la page après ces buts marqués 52e, 53e qui en font le meilleur buteur des Bleus. C'est un truc totalement incroyable dans la carrière de Giroud. Donc j'ai milité pour lui pour son retour en équipe de France. Maintenant, je pense que effectivement, pour tenir un discours cohérent aussi sur le fait de tourner des pages avec les Bleus, je trouve que Loris a bien fait de tourner la page par de lui-même, de laisser la place aux jeunes. Je pense que Giroud ferait bien de faire la même chose proprement. En revanche,
Loris peut-être que Deschamps aurait tourné la page pour lui. Hein,
oui, mais aussi, ouais, non, je suis pas sûr justement. Justement, c'est pour ça que je trouve très bien. Mais il y a deux choses ensuite. C'est au sélectionneur de décider. Comme en handball, c'est pas Karabatic de dire je reste, je décide, je pars, je reste. Il y a un sélectionneur. Il y a une faille.
Sur Direct Studio, là, on me dit je comprendrai jamais qu'un joueur annonce lui-même qu'il arrête, t'es appelé, tu viens.
Ah, ça, c'est vrai. Mais après, il y a une histoire d'âge. C'est pas pareil quand t'as 25 ans ou quand. Bon. Et après, la deuxième chose. Donc,
Sylvain Wiltord disait ça. Sylvain Wiltord disait moi, jamais je ne dirais que j'arrête l'équipe de France parce que je considère qu'un temps que l'on rappelle.
C'est une position respectable. Mais si nous, on nous demande notre avis à nous, bon, enfin à moi.
Non, mais c'est à l'état d'esprit.
Je te dis aussi, je pense que Giroud doit tourner la page comme Loris l'a fait et c'est très bien. D'autant qu'on a une génération devant qui s'est illustrée justement dans cette fin de Coupe du Monde. Donc, qui donne un cap pour la suite. Je pense à Kolo Muani, évidemment, et à Mbappé au premier rang, mais pas que. Donc, et Thuram, par exemple. Donc, voilà pour Giroud, pour Loris, pour Mandanda, très bien. Après, je mets un bémol, et pourtant, je suis pas un grand fan de Varane, mais l'âge, tu l'as dit, Gilbert, c'est pas la même chose. Et pour ne pas refaire l'erreur de Domenech, à l'inverse, tu sais, qui avait voulu à un moment donné repartir totalement avec une nouvelle génération, il est possible que sur un tuilage, jusqu'à l'euro, il a encore besoin.
Un tuilage.
Ah ouais, un petit tuilage. Il a besoin de quelques cadres. C'est une bonne expression, ça ouais. Tu t'imagines ce que c'est, quoi. La fin de certains avec le début d'autres. Voilà. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil de les mettre dans le même sac. Mais pour Giroud, c'est l'occasion, au contraire, de faire ça proprement et de ne pas attendre d'être appelé ou pas appelé, sachant que, après, la question, c'est juste pour faire ce tuilage. Après, pourrais dire aussi, je le laisse quelques matchs.
Daniel a parlé tout à l'heure à un méga tuilage. Le méga tuilage avec Deschamps qui reste, il n'existera pas. Hein. Parce que Deschamps, il va pas s'amuser à prendre le risque de dire attends, là déjà il y a polémique parce que j'ai gratté 4 ans, donc je vais pas me priver, je sais pas, de Pogba qui peut revenir, de Kanté qui peut revenir, de Varane qui a 29 ans, de Griezmann qui a la 31 et compagnie. À nouveau, peut-être, aurait pu.
Absolument. Non, mais là où Daniel avait raison, c'est que, à partir du moment où t'as pas changé de sélectionneur, tu vas pas avoir, comme tu le dis, Gilbert, une révolution. Et d'ailleurs, je pense, je te dis, pour rappeler l'histoire de Domenech à son arrivée, attention aux révolutions totales où tu arrêtes totalement avec toutes les générations passées.
Moi, je pense que l'histoire nous a montré. Également, l'histoire montre beaucoup que quand tu vas au bout du bout avec un groupe, ça s'arrête, ça finit toujours dans le mur.
Sauf que là, les faits ont un peu arrangé Deschamps. Ils lui ont, de par les blessures, ils l'ont obligé à être avec cette jeune génération et elle a montré cette jeune génération qu'elle pouvait quelque part être présente. Je pense notamment aux attaquants. Donc je pense que là, Deschamps, dans sa volonté de continuer, qu'on peut comprendre, hein, autant j'étais pour qu'il parte, mais je comprends que de sa position, il a envie de rester parce qu'il s'est dit, mais le matériel que j'ai, entre guillemets, devant, c'est fabuleux et c'est plutôt des jeunes. Mais voilà, après pour Giroud, moi voilà,
Team Giroud, c'est surtout Mbappé son matériel. Hein.
Team Giroud
avec le
team...
jeu des champs, le matériel, donc, on sait comment ça tourne.
Team Giroud toujours, mais Olivier, voilà, c'était top, mais faut passer le relais aux jeunes.
Bon, sinon pour le changement à la 40e, nous aussi, sur le moment, on n'a pas compris. Mais bon, écoute, ça peut-être qu'un jour on aura une explication concrète avec.
Il y a des débats là.
On n'aura jamais d'explication avec Deschamps.
Ouais. Bon. 23h56, c'est fini pour ce soir. Demain, on sera là à 20h avec Génération After à 20h et l'After à 22h. Et l'histoire de France-Corée, l'histoire de notre football, vous allez voir, c'est passionnant demain à 22h. Et puis, si vous voulez encore plus d'After, demain matin, vous allez dans votre kiosque et votre librairie pour la revue de l'After, toujours dispo. La prochaine sortira le 16 février. Et dans quelques jours, on pourra vous en dire plus sur le contenu. Vous allez voir, on vous prépare du lourd. Il y aura du Florent Gautreau dedans, du Daniel Riolo et un sujet brûlant. Dans le monde du football permanent, je vous laisse deviner, je vous dis rien, suspense. Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'After. Bye bye.
RMC, l'After Foot.